Maurice Renard, les enquêtes de l'inspecteur Jérôme, cherchait le crime. L'inspecteur divisionnaire Jérôme avait écouté ma question avec une curiosité souriante et un air qui, pendant que je parlais, ne me laissait pas de doute sur sa réponse. Cette réponse, comme je l'avais prévu, fut affirmative. « Certainement, fit-il, cela m'est arrivé. Le cas est rare, je l'avoue. D'habitude, c'est le crime ou le délit qu'on découvre en premier, et de ce point de départ, on remonte à l'assassin ou au délinquant. Le contraire a de quoi surprendre. « Je suppose, lui dis-je, extrêmement alléché, je suppose qu'en ce qui vous concerne, c'est d'un délit qu'il s'agit, et même d'un délit qui n'avait rien de sensationnel. Autrement, s'il s'était agi d'un crime, l'affaire aurait fait un bruit retentissant, et le récit de votre exploit aurait défrayé la presse de tous les pays. » Jérôme, sous ses moustaches blanches, et je le vis passer dans l'azur clair de son regard la douceur d'un peu mystérieuse et un peu ironique d'un souvenir. « Non, répondit-il en me regardant de la sorte, c'est bien d'un crime qu'il s'agissait. Alors, c'est donc une très vieille histoire. Oh, ça ne peut pas être une très vieille histoire. Réfléchissez. » Je réfléchis quelques secondes, pendant lesquelles nos yeux ne cessèrent, pour ainsi dire, de lier le fer. Ceux de Jérôme étaient bienveillants, et les miens remplis, sans doute, d'interrogations, d'intenses recherches. « Ne croyez pas, reprit Jérôme, qu'il faut avoir déjà longuement vécu pour être à même de concevoir certains soupçons à propos d'un homme, quand rien d'autre que sa physionomie, ses attitudes, sa démarche ne peut servir d'indice. Excusez-moi, repris-je. Mais je présumais que d'autres indices avaient pu vous alerter, vous guider. Par exemple, que sais-je, une balafre, une cicatrice, la marque des ongles de la victime. Halt, fit Jérôme en levant la main. Une balafre, une cicatrice. Ne sont-ce pas là des vestiges du fait brutal, des sortes de pièces à conviction, des traces matérielles d'un événement qui pourrait bien être un crime et qu'il est intéressant de rechercher. N'est-ce pas, en somme, le crime lui-même qui s'annonce, se trahit? Serrons de plus près les données du problème. Soyons plus scrupuleux, mon cher ami. Voulez-vous dire que vraiment que vous avez découvert un crime à la seule vue du criminel, sans vous tromper? Oui, c'est cela. Mais vos derniers mots ne sont pas tout à fait exacts. Je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Mais non pas sur le plan humain, mais sur le plan judiciaire. Vous comprendrez ce que je veux dire lorsque je vous aurai conté l'histoire. L'homme marchait devant moi sur le trottoir. Le hasard faisait que, sans y prendre garde, je n'allais pas plus vite que lui et que je le suivais sans le vouloir. Mon attention fut attirée par le mouvement fébrile de ses doigts. Ces doigts-là s'agitaient, révélant de l'homme en marche, était préoccupé, et même probablement anxieux. C'en était assez pour qu'il ne cessât de m'être indifférent. Alors, me rapprochant de lui, je tâchais d'apercevoir dans les vitrines des magasins le reflet de son visage. Oh, j'y parvins aisément, et je découvris ainsi un profil sévère et un regard mobile, autant qu'il m'était possible d'en juger. Cet homme portait toute sa barbe. Il était vêtu sans élégance, presque pauvrement. Le bas de son pantalon usagé s'effilochait un peu contre l'arrière de ses chaussures, dont les talons étaient usés. Nous allions, l'un derrière l'autre, vers un boulevard. C'était le matin. Il y avait peu de monde dehors à cause du froid. À cause de ce froid, l'autre semblait le négliger, puisqu'il ne mettait pas ses mains dans ses poches, témoignage supplémentaire de sa préoccupation. Et à mesure qu'il s'approchait du boulevard, sa marche se faisait plus lente, plus indécise. Il ralentissait, reprenait son train, ralentissait de nouveau, et tout à coup, il s'arrêta, hésitant, se tourna vers l'étalage d'un chemisier et resta là, peignant sa barbe d'une main fiévreuse. Je feignis de rallumer ma cigarette, qui n'était pas éteinte, et cela me permit de faire halte, moi aussi, et d'examiner l'homme par-dessus mes mains arrondies en coquille. Il avait l'œil fixe. Il ne voyait certainement pas rien des chemises, col ou cravate qu'il avait devant les yeux. Il délibérait. Et c'est ici que ma vieille expérience porta tous ses fruits. Il montrait une expression que j'avais vu qu'à certains êtres dont ma mémoire de policier conservait l'image ineffaçable. Cette expression n'appartient qu'à ceux qui ont commis le crime. Quelle est-elle? Comment vous la définir? Oh, je ne peux répondre. Ce n'est peut-être qu'une nuance. Toujours est-il qu'un peu observateur et riche d'expérience ne peut manquer de la reconnaître quand il l'a déjà vue avec ma visage. De ceux, du moins, qui me sont par commandés par des nerfs assez forts pour déceler de la vie intérieure. L'homme, brusquement, sous l'empire d'une impulsion, se reprit à marcher vers le boulevard à pas précipités. Parvenu presque au coin de la rue, il s'arrêta de nouveau avant de tourner, toucha son chapeau d'un doigt machinal, fit de petits gestes vains, et finalement, s'apercevant qu'une telle mimique pouvait le faire remarquer, tapota ses poches, de manière à la manière d'un homme qui se demande qu'il a mis son portefeuille ou autre chose. Ce faisant, il couvrit quelques pas très lents le peu de distance qu'il lui restait à parcourir pour se trouver au-delà du coin, sur le boulevard. Alors il regarda vers la droite et ne bougea plus, figé dans une stupéfiante contemplation. Je le dépassais, absolument certain qu'il ne me verrait pas, et je le vis, moi, béant, blême, avec des yeux qui lui mangeaient la figure de leur grand cerne livide, des yeux pareils à ceux des chouettes, mais pleins de je ne sais quels souvenirs effrayants. Que regardait-il, ces yeux, où le remords et la folie se le disputaient? Une maison, de l'autre côté de la rue, un immeuble de rapport, de taille moyenne, 5 étages et très certainement un seul appartement par étage. Tout m'enseignait que c'était la maison du crime. Tout, l'allure de cet homme et son visage. Je cherchais les yeux d'un agent, j'en trouvais un, deux, et je leur dis de surveiller le client, pendant que de mon côté, j'irai faire un tour d'enquête. Encore un, me dis-je, qui est revenu sur le lieu de son crime. Combien peu y échappe ? Je me dirigeais vers cet immeuble. Mes souvenirs ne me rappelaient pas qu'un crime resté impuni y eût été commis. Mais on peut se tromper. Avant de pénétrer dans le vestibule, je regardais par-dessus mon épaule l'homme surveillé. Il venait de s'asseoir sur un banc, et les deux agents, derrière lui, faisaient les 100 pas d'un air débonnaire. Alors j'entrais. La concierge était une petite femme boulotte, entre deux âges, bavarde. Je lui montrai ma carte. « Pouvez-vous me dire, madame, si cette maison a été le théâtre d'un crime autrefois, enfin, ces dernières années ?»« Un crime ?» fit-elle toute troublée. « Mais quelle sorte de crime, monsieur ?» L'inspecteur, oh, je me gardais de lui laisser voir que je ne savais rien. « Depuis combien de temps, madame, êtes-vous ici, concierge ?» lui demandai-je. « Oh, depuis tantôt 12 ans, monsieur l'inspecteur, mais pour ce qui est de connaître l'immeuble, faut vous dire que ma mère était là avant moi, concierge. » Et donc, j'ai passé, comme qui dirait, toute ma vie, ici même, dans cette loge. C'est vous dire que si un crime avait été commis depuis une trentaine d'années, eh bien, je ne l'ignorerais pas. Bien, murmurai-je, véritablement surpris, très surpris. Cette femme m'examinait sans sympathie. « Venez, dis-je, venez jusqu'au seuil de la porte. Voyez-vous l'homme qui est assis sur le banc, là-bas, en face de nous? Distinguez-vous ses traits suffisamment pour pouvoir le reconnaître, si d'aventure il a fréquenté votre immeuble, s'il a passé quelquefois devant votre loge? Oh Dieu, monsieur! « Bien sûr que je le connais, c'est Monsieur B. » Et elle dit un nom honorablement porté par bien des gens. « Et qui est-ce ? » « Oh, je n'avais pas revu. Oh, voilà bien de ça. Une pièce de 6 ans. Oh, c'était un jeune ménage, monsieur l'inspecteur. Il n'y avait pas plus gentil, plus aimable. Mes locataires du troisième, oh, on aurait dit qu'ils étaient faits pour s'adorer toute l'éternité. Alors il est venu, une petite fille mignonne comme tout. Et puis, on n'a jamais pu pourquoi, un beau jour, lui, il n'est pas revenu. Madame B et la gosse ont déménagé, le terme d'après. La petite dame se serait détruite, que ça ne m'étonnerait pas. Mais j'en ai plus jamais entendu parler. On m'a dit comme ça que Monsieur B était parti avec une chanteuse. Bon, lui dis-je, bon, je vous remercie. Je retraversais la chaussée. Je retrouvai mes agents. Ben, vous pouvez disposer, messieurs. Alors rien? Me demanda l'un d'eux. Si, si, je ne me trompais pas. C'est bon, voilà. Il n'est pas justiciable de nos tribunaux terrestres. Ah oui, avec toutes ces chinoiseries de règlement, de pré-représentation, dit l'autre en jetant sa pèlerine sur son épaule. Il y a toujours un tas de malfaiteurs qui s'en tirent. Si c'est pas malheureux. Pff.